France Inter.
Interception ce dimanche, ce sont des histoires de quartiers qui se transforment et de mondes qui empiètent l'un sur l'autre, parfois sans ménagement. À Poissy, c'est le monde des ouvriers des usines qui, peu à peu, se voit remplacé par des immeubles neufs et peut-être même par le nouveau stade du PSG. À Nantes, c'est le monde de Louisa, dans sa cité du nord de la ville, autrefois remplie de cris d'enfants, qu'elle refuse de voir grignoter par les dealers.
Interception. Fabienne Sintès sur France Inter.
Il faut avoir un certain courage pour s'approcher des points de deal et aller parler au chouf, le guetteur, celui dont le travail est de siffler quand la police arrive. Louisa fait ça tous les jours et elle les connaît tous, ces jeunes d'à peine 15 ans. Quand elle ne les connaît pas, elle va au contact. T'es qui? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Jamais agressive, jamais vindicative. Pour convaincre un gamin qu'il ferait mieux de retourner en classe ou d'apprendre un métier, faut y aller doucement. Elle a créé une association, Casta Routine, et depuis plus de 15 ans, elle sillonne sans relâche son quartier du Chêne des Anglais, dont les rues sont colonisées par les dealers. L'assassinat à Marseille du frère d'Amine Kessassi a mis en lumière ces citoyens qui se battent à main nue contre les narcotrafiquants. Louisa n'a qu'une arme, ses mots, et sa foi dans des jeunes dont elle sait qu'ils ne s'imaginent aucun avenir en dehors du deal.
On est saturé du désespoir, c'est malheureux à dire, des jeunes. On a des jeunes en face qui ne se projettent pas dans l'avenir. J'ai l'impression en fait qu'ils sont dans une cage, mais qui n'est pas dorée. Et quand on a rien fermé et qu'on n'a pas de discours positif, ben, le seul qu'on a, c'est celui du mauvais chemin.
Et pourtant, elle aurait de quoi être en colère, Louisa, parce que son quartier, elle l'a vu changer. Ses habitants désormais sortent à peine de chez eux, de peur des tirs de mortier réguliers et des règlements de compte au couteau. Mais elle y va. Et Cécile Bido l'a rencontrée sur un point de deal, très actif, même en plein jour.
What the fuck ?
Bah voilà, ça arrive. Ah ah.
Ça veut dire quoi ça ?
Bah la police arrive.
Voilà, okay. C'est tout simplement la police arrive.
Et ils sont là.
What the fuck ?
Je sais pas qui l'a gilet, le pauvre, il est tout petit. Il est tout, c'est ça qui me fait mal au cœur quand je les vois comme ça. Si jeune, ça m'attriste.
Donc ça, c'est un jeune, il a quoi ?
Voilà, ici, là-bas. En fait,
une cagoule, ouais, une doudoune noire.
C'est un paysage qu'on est habitué à voir. Hein.
Ça vous arrive d'aller discuter juste comme ça?
Ouais, mais il y a certains que je vois que ce sont des nouveaux, donc j'y vais tout doucement. D'autres, ils ont entendu parler de moi et d'autres, non. Donc, j'y vais tout doucement, quoi, parce que ça se pose la question. Donc là, je vais aller le voir, je vais lui dire qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète. C'est triste, hein, ils sont toujours dehors, dans le froid. C'est lui, il a sa petite baffe et tout, mais ils sont équipés. Hein. Ah oui, mais ils sont là toute la journée, il faut bien qu'ils s'occupent. Et souvent, l'hiver, on voit des feux carrément se chauffer.
C'est beau !
Bonjour. Oui, c'est quoi ?
C'est un reportage sur Louisa et l'association Casta Routine. Vous connaissez l'association ?
Ah, ça va toi ?
Bonjour.
Toi, si tu connais pas Casta Routine, c'est que t'as raté ta vie.
Je connais pas Casta Routine.
Comment ça, connais pas ta vue ? Oui, je sais les nouveaux, mais quand ils arrivent, expliquez-lui qu'il y a Casta Routine quand même. Tu sais, en fait, la crèche, garderie, vers Tommy, l'habite Tommy, là, voilà. Okay. C'est là-bas. Donc, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là-bas.
Ok, c'est bon,
frère. D'accord. Bon courage, et puis faites attention à vous, parce que à un moment donné, j'espère que je vais plus vous retrouver là.
Inch'Allah.
Tu vois.
Est-ce que vous faites, c'est quoi? C'est un podcast que vous allez sortir sur Internet?
Bah, à la radio.
À la radio.
Et en podcast aussi.
Et c'est quoi la radio? Là, on est en direct.
France Inter. Non.
C'est France Inter. Ça marche, super.
Merci.
Bonne journée.
Donc là, Louisa, vous avez entamé le dialogue avec ce jeune
qui est nouveau dans le quartier. Et qui vient de Rennes. De l'extérieur, ils viennent. Voilà, ils recrutent de partout.
Et lui, c'est ce qu'on appelle un chouf, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Qui prévient les autres de la présence de la police.
Et on sait combien il gagne à peu près?
C'est du 200, du 300, ou voilà, ça dépend. Hein, parce qu'il y a des choufs, il y a des choufs qui sont payés en fonction de leur ancienneté. Mais ça va, là, la chance, il est tout mignon, il est gentil. Vous avez vu, il doit avoir 15-16 ans. Mais là, on entend mais la conversation, donc je sais quoi, d'où il vient et tout ça. Et petit à petit, le faire venir pour qu'on puisse mieux parler, identifier ses besoins et comment on pourrait l'aider aussi, surtout. Peut-être il y a un parcours, il est à la rue, peut-être il n'a plus de rapport avec ses parents, peut-être il y a plein de questions, quoi. Et demain, quand je traverse la rue, bah, il m'a identifié.
Donc là, on est vraiment au cœur du
chêne des Anglais. Hein. C'est le chêne des Anglais et c'est au cœur du quartier Nord.
Donc là, on a des immeubles tout autour de nous.
Il y a un mélange de tours et un mélange d'immeubles bas. Bonjour, ça va? Ça va mieux dans le hall, il y a moins de squats. Ça va? C'est pas ce que c'était avant. Hein.
Non. Moi, j'aime bien mon quartier parce que c'est vrai, ça fait 30 ans que je suis là. C'est fini. Ils ont peur, les gamins, maintenant. Oui, ils ont peur des coups de fusil. Bah
ouais,
les
habitants
de fusil, nous. Hein.
Bah ouais, je sais, ouais.
Vous avez eu des coups de fusil ici?
Là-bas.
Bah ouais.
Vous avez entendu?
Ah oui.
Bah oui.
Ah oui. Hein. Ah non, moi, je ne suis plus chez moi. Hein.
Peur, hein.
Je reste chez moi, j'ai trop peur.
Ah, après, il ne faut pas rester dans la peur. Hein, parce que
là, je connais,
vous
on
viviez
a
plus.
Peur, hein. C'est vrai.
Ouais, ben, j'étais pas la seule. Hein.
Moi, j'ai des cannes. Hein.
Ah oui.
Ah, c'est ma défense.
Une canne
avec... Ça, c'est ma défense. Moi, je me dis aux flics. Ah, dit, vous avez bien raison.
Un coup de canne et voilà.
Un coup de canne, ben, il reste
super,
il reste
on va tous leur donner un coup de canne alors. Allez, on y va. Il faudrait que tu m'en passes une là aussi, hein, parce que je vais leur donner tous les coups de canne, moi là.
Bon, ben, prenez soin de vous.
D'accord, merci.
À bientôt. Hein.
Au revoir.
Oh là 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 là. Donc là, c'est, voilà, c'est ma tour. Pour avoir connu le quartier depuis plus de 30 ans, il n'y a plus cette joie-là, ce mélange, c'est nos enfants qui jouent. Moi, j'ai 4 enfants, ils ont tous grandi là. Je sortais avec eux, on était avec d'autres mamans, ils jouaient là. Mais je comprends les mamans qui ne veulent plus faire jouer leurs enfants. Comment ils vont sortir, s'asseoir et aller jouer alors qu'il y a des acheteurs qui viennent et puis les dealers qui vont d'ici? Comment on peut tolérer ça? Et qu'il y a même des acheteurs qui viennent parfois aborder nos enfants, les petits, en leur disant c'est où que ça se vend, quoi.
Et ça vous révolte, c'est pour ça que vous bougez?
Ouais, non, je supporte pas ça, c'est pas possible. L'espace public, il est pour tout le monde, on paye le loyer, tout le monde a le droit de sortir tranquillement, sereinement, se poser, traverser, aller où il veut, on a l'impression que non, en fait.
Et on peut aller voir les lieux où il y a eu les dernières fusillades?
C'est celui-là, cette tour-là, là. Là, il y a eu quand même, je crois, 3 ou 4 coups de feu qui se sont enchaînés en l'espace de 15 jours, 10 jours. C'est là où ça devient inquiétant, parce qu'il y a des gens qui vivent, quoi. Et que ça peut arriver à tout le monde, y compris à moi. Hein. On rentre, on passe par là, on se prend une balle alors qu'on n'a rien à voir là-dedans. C'est toujours des innocents pour rien, quoi. Et que les gens, ben, ils n'ont pas le choix, quoi. Ils ne sont pas obligés de rentrer chez eux, ou de sortir, ou de rentrer d'école, comme eux, comme ces petits, là. Ça va, les enfants? C'est quand même effrayant, quoi. Je me dis, bah là, le degré de la délinquance, il est plus.
Mais ça n'entame pas votre détermination?
Non, parce qu'il y a toujours des gens à aider, à sauver, à accompagner derrière, qui ont besoin. Et s'il n'y avait pas ce grain d'espoir, c'est vrai que des fois, les jeunes me disent, oh Louisa, t'es trop naïve, oh Louisa, mais même si des fois, parfois, je suis sidérée ou je... par tout ce qui se passe, par le manque de moyens et tout, je leur fais pas voir. Je leur dis toujours des choses positives, si, il faut y croire, alors que je sais très bien que voilà. Mais je porte toujours ce message, parce que pour moi, c'est important de positiver pour tenir à la durée, quoi. Il faut. Mal au cœur, même à la maison, ils devaient être comme ça.
On n'a pas de chauffage, on n'a pas de chauffage. Tu nous verrais la nuit quand on dort.
Je vais vous ramener un petit café, je vais vous ramener. Réchauffer les cœurs déjà. Réchauffer les cœurs.
Après,
on va gérer le problème des habitants qui n'ont pas de chauffage et d'eau chaude depuis des jours et des jours. Et là,
deux semaines.
Voilà. Depuis lundi, moi, je suis submergée d'habitants en colère, quoi. Alors, je suis Louisa Bateuil, habitante des quartiers nord depuis plus de 30 ans. Et j'ai fondé l'association Casta Routine en 2009, déjà en tant que collectif, et officiellement en association en 2011. J'ai grandi dans le sud de la France. Et du coup, moi, j'ai découvert les quartiers quand je suis arrivée à Nantes. Nantes-Nord était un quartier quand même
en face de construction, avec le tram qui venait de terminer, qui traversait, qui ramenait au centre-ville, avec un centre commercial pas très loin, donc chouette quartier à la base. Mais au fur et à mesure, je l'ai vu se dégrader, le quartier se dégrader et ses habitants manquent de confiance.
Vous faisiez quoi comme métier à la base ?
Alors j'étais aide à domicile, alors toujours dans l'aide des gens. Ma formation, elle a été à la rue, quoi. Quand on me dit j'ai quoi comme diplôme, j'ai dit j'ai le diplôme de la rue.
Donc ça fait 15 ans que l'association maintenant existe, Casta Routine, un peu plus.
Un peu plus, ouais. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe exactement ici ? Là, on est dans vos locaux, alors c'est pas très grand, hein. Il y a votre bureau là où on se trouve, et à côté il y a une salle commune avec une cuisine où les gens passent librement, voilà. En fait. Hein. C'est toujours c'est ouvert.
Voilà, c'est un sas, on va dire, un peu une deuxième maison pour ses habitants. Quand je dis habitants, c'est général. On a les pères de famille, les mères, pour différentes situations. On a beaucoup de jeunes, scolarisés, déscolarisés, et ceux qui sortent de prison, ceux qui sont suivis dans des suivis judiciaires. On est saturé du désespoir, c'est malheureux à dire, des jeunes. On a des jeunes en face qui n'ont pas de rêve, qui ne se projettent pas dans l'avenir. J'ai l'impression, en fait, qu'ils sont dans une cage, mais qui n'est pas dorée. Et que du coup, ils ont du mal à s'en sortir. Et quand on a rien fermé et qu'on n'a pas de discours positif, ben le seul qu'on a, c'est celui du mauvais chemin. On a pu aider des jeunes à payer un peu leur permis de conduire. Des jeunes qui sortaient de là, en fait.
Et qui sortaient de prison.
Oui, qu'ils avaient commis des faits, qu'ils ont sorti, qu'ils voulaient s'en sortir. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire « oui, il faut s'en sortir ». Mais qu'est-ce qu'on propose en face, en fait ? Parce que nous, des fois, moi, je l'ai vu aussi replonger, retomber, parce que j'avais pas de solution pour eux, quoi. J'étais face moi-même à des murs. J'ai eu des échecs hein, sur des jeunes que je sentais motivés. Je me dis, c'est bon, on va y arriver. Et que du coup, voilà, c'est très dur pour nous. Mais en tout cas, on lâche pas. Parce que le résultat, quand on en voit que certains, ben, aujourd'hui, ils ont une vie normale, qu'ils essaient de s'en sortir, même si ça, ils ont peiné, compliqué, ben, ils travaillent, ils s'en sortent. Ils sont loin du quartier, mais là, qui me disent, le seul moment où on viendra mettre le pied dans le quartier, c'est pour venir te voir, toi.
Donc là, on est dans le bureau de Louisa, et ça défile, en fait. Hein. Les jeunes passent pour dire bonjour simplement, prendre un café, parler d'un projet, d'un problème. Et elle écoute chacun avec la même attention.
T'as déposé tes CV, tout ça ? Voilà. Mais c'est bien, il est en pleine démarche, lui. Je m'inquiétais pour toi hier. Je lui dis, j'espère qu'il a pas, qu'il tient le coup.
Là, en fait, c'est deux jeunes que vous connaissez depuis combien de temps ?
Longtemps, depuis qu'ils sont petits même. Lui, depuis qu'il est tout petit aussi.
Ouais.
Donc là, il va falloir que tu relâches pas de motivation, quoi. Est-ce que ton permis déjà, tu...
J'ai raté mon code.
Ah, mais c'est bien. Non, mais c'est bien que tu l'aies passé.
Ouais,
c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave.
Ça arrête pas un échec.
Non, ça arrête pas un échec. Bravo.
En fait, c'est comme si on était abandonné. Notre seul lieu où on peut parler et tout, bah, c'est ici.
Mais c'est pas facile tous les jours, quoi. Je veux dire qu'il en faut, heureusement, parce que dans les quartiers populaires, que ce soit partout, tout en France, que ce soit à Marseille, à Paris, tout ça, il y a des gens un peu comme moi qui se battent tous les jours, qui se lèvent le matin que pour ça. Que pour ça, pour aller à la guerre, en fait. C'est une guerre en permanence, tous les jours.
Et vous avez jamais peur ?
J'ai eu à un moment donné parfois des réflexions qui faisaient comprendre, oui, voilà, quoi, que je dérange et tout ça. C'est pas facile pour moi parce que du coup, quand on veut aider les gens à s'en sortir, évidemment, ça n'a pas arrangé. Enfin, tout ce qui est réseau, vont pas trop apprécier que j'en sorte quelques-uns parce que du coup, c'est leur outil de travail. J'ai vu un grand me dire, toi, va rentrer dans ta cuisine. Alors, je lui dis, les paniers, celui qui va me dire, il va me mettre dans une cuisine. Alors là, mon coco, t'as rien compris. Mais pour l'histoire, ce jeune-là qui m'avait agressé, c'est que quelques années plus tard, c'est lui-même qui est venu pour que je l'aide. On m'a cassé la porte, ils sont rentrés à l'association. Je bataillais pour des dealers qui étaient là, tous ici, à fumer du shit et tout ça. Bah, en faire sortir, certains.
Physiquement, vous faites sortir des gens ?
Ah oui. Non, parce que si on se laisse faire et tout, c'est pas... Non, c'est pas rendre service à tout le monde. Je me dois de tenir face à ça. Le papier, tu l'as eu quand
donné papier, par... Je l'ai même pas ramené.
La date, c'est quand ? Parce que tu as droit à faire un recours.
Ah, c'est ça ?
Ah, ouais.
C'est ça que je voulais faire, je suis là-bas. Donc, on m'a dit, va te faire foutre.
Bah, voilà, faire un recours. J'ai fait déjà des recours à des jeunes et que du coup, la réponse, ils l'ont eu une fois que la mesure a été levée. C'est ridicule.
j'ai 19 ans et je viens des quartiers nord de Nantes.
Vous avez grandi ici?
Oui, depuis tout petit. Moi je travaille, je suis dans la peinture. C'est peinture, vêtements, sol, on fait presque tout en bas de placo.
Et alors en quoi elle vous a aidé, vous, Louisa?
Elle m'a aidé pour mon CV, elle m'a aidé pour des adresses où je pouvais aller déposer mes CV. C'est grâce à elle aujourd'hui que je travaille. En vrai de vrai. Donc, il n'y aurait pas eu Casta Routine, bah, je serais encore dans le quartier. Peut-être en train de dealer, je vous mens pas. J'y étais pendant 2 ans. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait 3 gardes à vue. Je me suis calmée et je suis allée voir Louisa. Et elle m'a aidée.
Sans Louisa, vous seriez où, à votre avis, aujourd'hui?
À Carquefou. Parce que c'est la prison centrale de Nantes. Et c'est vraiment à Carquefou que j'aurais fini.
Donc, vous êtes l'exemple vivant que accompagner des jeunes pour les aider à sortir de cet engrenage des trafics, ça marche?
Ça marche. Ça marche, parce que moi, ça marchait. Pourquoi ça marcherait pas sur d'autres? C'est juste que j'ai voulu suivre Louisa, je lui ai fait confiance, et aujourd'hui, bah, je travaille. Aujourd'hui, je suis bien, je suis tranquille, personne ne me fait chier. C'est une maman de quartier, un peu, parce qu'elle s'occupe de nous. Elle nous demande si ça va. Il y a qui nous demande si ça va? C'est pas les flics qui vont demander si ça va, hein. C'est pas le ministre, hein, c'est personne d'autre. Il n'y a que elle qui va venir nous voir, nous dire ça va, t'as besoin de quelque chose. Il n'y aurait pas Casta Routine. Franchement, ce serait. Là, le narcotrafic serait 2 fois plus gros. Ça, c'est réel, c'est clairement réel. Parce que moi, là, je suis dans le narcotrafic, là. Mais pourtant, je suis ici, en train de vous parler. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à elle.
Ah, Aurélie, 2 minutes, je te reprends.
De quels moyens vous disposez pour mener ce combat?
Ah, de quels moyens? De mes pieds, de mes mains, et de ma bouche pour hurler, pour gueuler parfois. De quels moyens? Moi, je trouve à mon sens pas assez. Financièrement, on a la ville et l'État qui nous soutiennent.
Aujourd'hui, vous êtes salariée?
C'est ça. C'est ça. Je suis responsable de la structure.
Et vous êtes la seule salariée de l'association? Alors, sinon, ce sont des bénévoles.
Voilà, voilà. Donc, vous savez que je me suis bataillée pour avoir 2 statuts de relais. 80% payés par l'État et 20% par la ville. Ces postes à titrer qui sont pour des gens issus des quartiers populaires, qui habitent dans les quartiers, qui connaissent les habitants, dans l'objectif de faire le lien entre eux et les institutions. Mais après, c'est pas forcément payer des masses. Hein, c'est, voilà. Moi, j'étais quand même à 1100 euros pendant plus de 10 ans à charbonner avec des heures pas possibles. Quoi. Donc, je veux dire, pour dire, heureusement que c'est pas ça qui nous anime. C'est cette envie, justement, d'apporter la pierre à l'édifice. Il y a un manque de moyens partout. Et nous, on veut bien être au service de l'État, de la ville, de tout ce que vous voulez, de tous les politiques, de n'importe quel bord que ce soit, qui veulent bien nous-mêmes nous aider pour pouvoir accompagner ces jeunes et essayer que la paix sociale soit réinstaurée dans nos quartiers populaires.
Louisa contre les narcos, détournement de dealers. Un reportage signé Cécile Bideau.
France Inter, Interception.
L'image, vous l'avez, elle est presque sépia aujourd'hui, celle de milliers d'ouvriers, à l'heure de l'embauche, devant les usines de Poissy, dans les Yvelines. Ford, Chrysler, Simca, Peugeot, c'est une partie de l'histoire de l'automobile qui s'est jouée sur ce site. Aujourd'hui, Stellantis Poissy produit encore l'Opel Mokka dans sa dernière usine. La ville, elle, est déjà en train d'écrire une autre histoire. Sur les friches, on construit des immeubles, un écoquartier qui attire une nouvelle population, des jeunes actifs, des espaces verts, de la place pour les poussettes et des pistes cyclables. Et il n'y a pas que les nouveaux immeubles. Le PSG lorgne aussi sur une partie de cet espace pour y construire son nouveau stade. Le club hésite encore pour l'instant entre Poissy et Massy. Mais elle paraît bien lointaine, l'époque de Simcaville, peuplée exclusivement de familles d'ouvriers. D'ailleurs, les ouvriers de Poissy, ils habitent bien plus loin désormais, comme Patrice Zahn, syndicaliste à Sud, qui se lève aux aurores pour venir de Pantin, c'est à 1 heure de route. Il voit disparaître ce qui a été 30 ans de sa vie et sortir de terre un autre monde. Il a donné rendez-vous à Antoine Gignot chez lui, à 4 heures du matin. Il est déjà debout.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va, ça va.
Alors on parle doucement pour réveiller personne.
Ouais.
Réveil, quelle heure?
3h15. Et je me suis préparé. Là, j'ai commencé à faire ma thermos de thé pour la journée. bon, je vais me faire un café aussi pour la route. Et je vais vous en faire un par la même occasion. Comme ça, on aura chacun notre café pour la route.
Merci.
Moi, je mets deux dosettes parce que ça y en a assez. Et là.
Dans une journée comme aujourd'hui, le temps pour manger, c'est quoi ?
En fait, dans la journée, on a deux pauses de 20 minutes, ce qui fait pas beaucoup. La première pause, moi, le matin, j'ai un coup de barre, je me repose, je mange à la deuxième pause. C'est la pause repas, mais aujourd'hui, on va faire une petite discussion dans un des secteurs de l'usine, avec des camarades de travail, discuter comment s'en sortir le moins mal possible de cette histoire et essayer de gagner des garanties pour les uns et les autres. Là, c'est le début du sprint, en fait. Donc, je remplis le sac, la gamelle, les dernières affaires, et puis je pars.
Que je vous laisse vous présenter avant qu'on descende.
Oui, alors moi, je m'appelle Patrice Zahn. Je suis ouvrier contrôleur à l'usine de Poissy. Depuis maintenant 12 ans, je suis là-bas et auparavant, j'ai été 18 ans à l'usine d'Aulnay-sous-Bois qu'ils ont fermé en 2013-14.
Quelle année et dans quelles conditions ?
Alors j'avais passé à peu près 18 ans à Aulnay et j'arrive à Poissy en février 2014 au moment de la fermeture de l'usine. Il y a eu une bagarre. On est parti en grève en pensant que ça durerait peut-être quelques jours, voire une semaine. Et en fait on est parti pour 4 mois sans travailler du tout, avec des payes à zéro.
Quand vous vous replongez dans cette époque-là, il y a des similitudes avec ce qui est en train de se passer à Poissy aujourd'hui pour vous ?
Je pense qu'à Poissy, on est un peu plus en avance parce qu'on a vite compris qu'ils allaient fermer, enfin arrêter la production de voitures. Là-dessus, ils nous annoncent 8 millions d'investissements sur 3 ans.
Oui, la direction dit 20 millions au total, mais c'est beaucoup moins qu'à l'étranger.
Bah oui, pour le coup, alors pas qu'à l'étranger d'ailleurs, mais récemment à Kenitra. C'est 1,2 milliard d'investissements, Maroc. C'est au Maroc. Aux États-Unis, c'est 13 milliards. À Sochaux, à l'usine de Sochaux, l'ancienne usine mère là, de la famille Peugeot, ça chiffre en centaines de millions. Donc tout ça mis bout à bout, il est hors de question qu'on se retrouve sur le carreau. Là, il faut qu'on discute, qu'est-ce qu'on va devenir chacun ? Quand même, on a laissé notre peau là dans cette usine, notre santé. En fait, qu'on soit du matin ou qu'on soit du soir, on voit quasiment pas le jour de la semaine. Hein, on a à peu près que le week-end pour voir le soleil. Et on est crevé souvent le week-end, donc faut se reposer. Là, on va travailler sous les néons, dans le bruit. Parfois, si on sort pas de l'atelier, on sait pas s'il fait beau, s'il fait pas beau dehors, s'il pleut pas.
Comment vous regardez, vous, ces 30 années ?
Les 30 années, c'est une dégradation permanente des conditions de travail. Il y a des suppressions de postes, où on essaie de nous faire travailler toujours plus, toujours plus vite. Tout est minuté au centième de seconde. Tous les temps sont comptés. Le temps de déplacement pour prendre une visseuse et visser un écrou, le temps de déplacement pour aller chercher une pièce, tout est calculé en fait. Les chefs, les petits chefs d'équipe, ils ont dans leurs objectifs, ils ont ça, les gains de productivité.
Le site de Poissy, il est emblématique parce qu'il représente l'industrie automobile en Ile-de-France, j'ai même envie de dire en France. Mais quand on voit à l'échelle de la ville de Poissy, les usines qui ont déjà fermé, les friches industrielles qui sont reconverties en terrain à bâtir, la population ouvrière qui est de plus en plus loin, parce que là on a fait tout le trajet avec vous, mais vous avez des collègues qui viennent de Dreux, qui viennent d'Évreux, qui sont repoussés encore un peu plus loin. Est-ce que c'est pas ce monde-là qui disparaît un petit peu ?
Ah bah une fermeture d'usine, c'est sûr que c'est une catastrophe sociale.
On arrive le long des voies ferrées, là, on y est presque.
L'usine d'ailleurs.
On voit l'usine. Le paysage, il ressemblerait à quoi avec un stade du PSG à la place? Vous l'imaginez? C'est crédible comme scénario pour vous?
Ah, c'est crédible comme scénario, hein, c'est tout à fait crédible. Ils ont fait récemment dans l'usine des carottages pour tester la qualité du terrain. Ah, on a bien compris que maintenant c'était pour l'implantation future du PSG, qui se fera ou qui se fera peut-être pas, mais enfin, il y a la place de faire un stade, des hôtels, des cinémas, enfin tout un complexe en fait. Nous on appelle ça le PSG Land entre nous. Les bâtiments seront vides, il n'y a plus qu'à les casser. Et en plus, il y a une bretelle d'autoroute qui commence à être faite pour pouvoir rejoindre la 13 plus rapidement. Il y a une station de RERE qui va arriver jusqu'ici, le RER, jusqu'à Poissy. Bon, là, ça va être encore mieux desservi.
Quel regard vous avez là-dessus, vous, sur cette ville qui avale l'ancien patrimoine industriel?
Je suis pas très nostalgique et puis je vais pas verser une larme sur... J'ai eu ma dose avec Aulnay. Quand l'usine avait été fermée, je suis repassé quelques mois après. Ah, ça m'a fait drôle, ça m'a quand même pris un peu à la gorge. Et ça a été un coup d'émotion assez fort. Là, je pense que je ne l'aurais pas. Mais c'est vrai que c'est la vie des gens, quoi. Et c'est de se dire que là, il y avait plus de 20 000 ouvriers qui avaient dans cette usine. Bon, c'est ça qui dégoûte, quoi, qui fout la rage, quoi, parce que... C'est qu'une histoire de sous, hein, au final. Enfin, c'est pour que l'entreprise continue à faire au moins autant de bénéfices ou gagne plus, quoi. Parce que tout ça, c'est des questions de rentabilité. Au final, ce sont des calculs financiers, quoi. Et là-dedans, bah, les ouvriers, ils comptent pas, hein. Et ça, c'est pas acceptable, en fait. Faut au moins qu'on vende notre peau chèrement.
30 ans, c'est pas rien.
30 ans, c'est pas rien, ouais. Au début, on arrive dans l'entreprise, on se dit « Oh là là, je vais jamais... » On est plein à se dire ça. On s'est dit « On va rester une semaine, deux semaines, un mois, pas plus, le temps de se refaire et puis de repartir de là, parce que c'est... » La chaîne, c'est quand même quelque chose de particulier. Puis finalement, on reste. Mais je crois que c'est le côté... Ce côté d'être ensemble, d'être nombreux, de... C'est une vie sociale incroyable, hein. C'est comme une vie de... Une vie de village, hein.
Bon courage.
Merci, merci, ouais.
5h05 du matin, les derniers sont en train de se garer sur le parking et de passer les portillons. Et c'est parti pour cette journée de travail. La décision de continuer ou pas à produire des voitures, elle sera prise ce semestre. La direction de Stellantis promet de garder les salariés et met l'accent sur l'installation ici, à Poissy, de son Green Campus qui regroupe plusieurs milliers d'employés du tertiaire. Les ouvriers, eux, sont de moins en moins nombreux à habiter sur place. Alors on s'éloigne des murs blancs et rouges de l'usine pour aller jusqu'au quartier Beauregard, surnommé Simcaville, pour retrouver Jean Villaca, syndiqué lui aussi chez Sud. Il est l'un des derniers à vivre encore à Poissy.
Je m'appelle Villaca Jean, j'ai 53 ans et ça fait 33 ans que je travaille chez Stellantis à Poissy dans l'usine.
Et combien de temps dans cet appartement-là, du coup, on est chez vous?
Je suis arrivé ici à l'âge de 3 ans. Et non, le quartier n'a pas vraiment beaucoup changé, à part un petit coin à côté de la forêt où c'est du neuf, mais c'est plutôt du privé, c'est pas du social. Mmh. Ils viennent du Portugal, mes parents. Mon père, il est venu avec un contrat c'était Simca à cette époque-là. Ils sont arrivés en 72. La grande majorité des personnes qui vivaient ici travaillaient pour Chrysler, pour Simca ou pour Peugeot. Ouais.
Votre enfance, là, dans le coin, ça ressemble à quoi?
Bon, c'était ça, il y avait quand même beaucoup d'enfants. D'enfants d'ouvriers, et on avait des petits terrains de jeu où on s'amusait, on jouait au foot, on faisait un peu de sport, on faisait des, il y avait un bac à sable, ce genre de choses, et on jouait énormément dehors. Puis il y avait beaucoup de voisins, moi j'avais des copains où les parents ils travaillaient, j'en avais trois ou quatre familles, hein, où les parents travaillaient à Peugeot ou à Simca, quoi, tout dépendait de la période.
Oui, ça a changé à quelle époque ?
84, ouais, il y a eu une purge, les délaissements. Ma mère a travaillé aussi là-bas comme femme de ménage, où elle était dans la charrette, on va dire ça, de licenciement. 2000 licenciements, je crois, à cette époque-là, ce qui était énorme. Ouais. C'était en 84, ouais, où Peugeot a racheté, on va dire, l'entreprise. Ouais.
Il y a eu des mouvements sociaux à cette époque-là, d'ailleurs.
Surtout, c'était la population des OS, c'est-à-dire des personnes qui travaillaient sur chaîne, tout ça, qui sont vraiment manifesté leur colère.
OS, c'est ouvriers spécialisés.
Voilà, ouais. Qui étaient traités d'une façon assez abominable. C'était surtout des personnes étrangères, issues d'immigrés, comme mon père, et surtout beaucoup de Maghrébins, d'Africains, sont des choses. Ils étaient traités d'une façon très dure. À cette époque-là, quand je rentrais déjà en 92, on entendait quand même beaucoup des propos racistes déjà à cette époque-là. On peut imaginer dans les années 70, 60, tout ça, c'était les bons comme ratons, sur une chose. Mais en plus, c'était des petits chefs, donc ils avaient plein de pouvoir sur eux. Bah, si tu commences à râler, bon, on te met dans un poste pire que le tien. Quoi.
Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, je vais moi aussi rejoindre l'usine ?
C'est surtout mon père qui m'a dit, si tu veux, ils embauchent là-bas, tout ça, donc tu postules et tu verras bien ce qu'ils vont dire. Bon, j'ai postulé, et ils m'ont pris. Bon, c'était l'époque des 4-10, on faisait 4 fois 10 heures. Quand je suis rentré, il y avait quand même 12 000 personnes encore.
Quel regard vous avez, vous, sur les années que vous avez passées à travailler ?
Ouais, il me reste encore pas mal d'années pour la retraite. J'ai 53 ans. Donc,
53 ? Ah, pardon, je pensais que c'était...
Ouais, je ne fais pas aussi vieux que ça, quand même. J'espère que non. Non, c'est quand même beaucoup d'usure mentale, beaucoup d'usure... surtout en plus l'ambiance qu'il y a en ce moment. Nous, on espère quand même qu'il y a une ambiance de lutte, mais pour l'instant, il n'y a pas cette ambiance-là, pour l'instant, mais on espère l'avoir.
Aujourd'hui, vous gagnez combien ?
Là, j'atteins à peine les 2200 euros net, au bout de 33 ans de maison, et en étant professionnel. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont 30 ans de maison, qui sont par exemple les OS, les opérateurs, dépassent à peine les 2000 euros net. C'est inadmissible. Ça ne suit pas le cours de la vie, hein, tout simplement. Quoi. Je sais qu'à une époque, les salariés pouvaient se permettre d'acheter une voiture qu'on fabriquait. Là, depuis 15 ans, je ne connais aucun collègue de travail qui peut s'acheter la voiture qu'on fabrique.
Poissy, ça a été historiquement un des gros centres de construction de voitures, mais pas seulement, il y avait d'autres usines jusqu'au milieu des années 50, un peu dans la ville. Là, vous êtes un peu les derniers, finalement.
Oui, on est les derniers, pratiquement les derniers. Parce qu'il y avait Glaser, il y avait aussi Rochas, qui fabriquait des flacons de parfum. Bon, Rochas, c'était une grosse boîte, hein. Il n'y avait plus de 1000 salariés, il y a 30 ans. Et maintenant, c'est même pas une cinquantaine. Donc, il y a plein d'usines qui ont fermé, même le peu qui sont restés, ça comporte très peu de salariés.
Là, on arrive.
Donc là, c'est le quartier La Coudraie. Et c'était des quartiers, à cette époque-là, oui, c'était des quartiers de luxe à cette époque-là. Ouais. Après, petit à petit, ça s'est transformé. Les cadres et les chefs, ils ont acheté ailleurs. Hein. Et ça s'était remplacé par des ouvriers. Les ouvriers sont venus ici il y a 40 ans. Il y avait un terrain de foot, c'est plus ça, mais il y avait un grand terrain de foot ici. Là. Et on jouait au foot ici avec eux. Hein. On faisait Borgard contre La Coudraie, ouais. Quartier contre quartier. Ouais. C'était assez marrant. On appelait ça la Coupe du Maghreb parce que bon, c'était surtout les Maghrébins qui étaient derrière ces rencontres. Le foyer, il était juste là en face, le foyer.
Là où maintenant on a des grands blocs d'immeubles carrés, tout ça, ça a été construit quand ?
Oh, il y a 6 ou 7 ans, je pense, de mémoire. Tout a changé. Ouais.
Le changement de décor, on le voit partout à Poissy ces dernières années, avec parmi les nouveaux immeubles qui sortent de terre, l'éco-quartier Rouget de Lille. Un ensemble immobilier construit sur les friches industrielles, juste en face de l'usine Stellantis. On est vraiment de l'autre côté de la voie ferrée. Les premiers logements sont déjà là, avec des pavés, des façades blanches et des promeneurs. Il y a des mamans avec leurs poussettes. Merci à tous dans la poussette.
Coucou. T'es malade?
Ouais.
Vous êtes en train de partir chez le médecin au parc?
Au parc, ouais. Bah, moi je suis Delphine et je suis chef de projet dans le BTP.
Donc on est au pied des immeubles. Vous, vous êtes où? Dans quel bâtiment?
Moi je suis au bâtiment qui est là, le blanc. C'est... voilà.
Alors dites-moi, vous vous arriviez d'où et vous êtes venu quand?
Moi j'arrive arrivée de Suresnes et je suis arrivée ici avec mon conjoint et ma fille début janvier. Dès qu'on a pu avoir les clés, on est venu emménager. On avait acheté sur plan. Et pourquoi Poissy? C'est pas particulièrement pour Poissy, mais on a acheté presque 400 000 euros 100 mètres carrés. Là-bas, je pense que pour 400 000 euros, on a peut-être un 70 mètres carrés. Et en même temps, c'est pas non plus une ville dortoir. Poissy, c'est quand même une ville dans le centre-ville qui vit. Il y a des restos, il y a des bars, il y a des magasins. C'est pas non plus la ville banlieue où il se passe rien. C'est aussi pour ça que on s'est dit que c'était pas trop mal de tomber là.
Et alors, voilà. À l'usage, ça donne quoi?
Bah, à l'usage, c'est sympa. Justement, le centre-ville, il est hyper cool. Il y a le parc Meissonnier, il y a la forêt de Saint-Germain. Donc, pour ma fille, c'est cool. Après, donc là où on est spécifiquement, ce qui n'est pas encore construit. Il y a encore un immeuble qui doit être construit. On ne sait pas quand est-ce qu'il va être construit.
Si on décrit, parce que c'est de la radio, on a quand même ici les allées principales vers le centre-ville. Après, on arrive vers les bâtiments qui ont été construits. Et derrière, on a encore de la friche industrielle.
Ouais, c'est ça. Derrière la friche industrielle... ça fait vraiment sale, ça fait vraiment un quartier complètement délabré. On ne sait absolument pas quand est-ce que ça va se terminer, même s'il y a des panneaux qui indiquent des dates, mais en fait pour le moment il ne se passe rien, il n'y a aucun travaux, donc du coup on ne sait pas du tout quand est-ce que ça aura une autre tronche, quoi. Pour le moment ça fait un peu entre deux guerres.
Transition.
Voilà, transition. C'est une ville qui est en train de bouger, PSG, donc avec le potentiel RH et le stade qui serait construit ici, j'imagine que ça va d'autant plus bouger. Parce que là, ça fait vraiment, on marche sur les ruines d'un quartier industriel, quoi.
On l'entend autour de nous, d'ailleurs. Il y a encore les trains, des voitures Stellantis qui sortent d'usine, les camions qui passent à côté de nous.
Oui,
on le voit tout autour.
Oui.
Allez, merci beaucoup. Je vous laisse filer au parc. Salut.
Juste l'eau. Merci. Au revoir.
Luc Monéger, associé de l'agence Cobé, urbaniste et paysagiste concepteur.
Et donc à l'origine de ce projet, on n'est pas loin, on l'entend derrière nous, le train est en train de passer, on n'est pas loin des voies ferrées, on est sur un site qui ressemblait à quoi il y a encore quelques années?
On est sur une friche industrielle, les anciennes usines Peugeot, avec des hangars qui sont de moyenne facture, hein, c'est des blocs en tôle. Il n'y avait rien de patrimonial, on va dire, en termes architecturaux sur le site. Donc des natures de sol qui sont pas forcément très propres à faire développer du vivant et à amener des habitations là-dedans. Il y a eu un travail assez technique pour amener l'eau au bon endroit, dépolluer sur site, parce que quand on est sur des sols pollués, ces pollutions ne doivent pas se retrouver dans la pratique, et on est encore en train de faire évoluer les règles pour économiser l'eau, pour avoir des apports d'énergie renouvelables, pour avoir un confort d'usage pour les habitants, pour avoir de la lumière naturelle dans les logements, de la double ventilation, pouvoir aérer son logement de manière naturelle et comme ça favoriser le fait de limiter l'usage d'énergie et de baisser autant que possible le bilan carbone de chacune des opérations immobilières.
Si on fait avant-après, on est passé d'un vraiment paysage totalement industriel avec des hangars, avec, qu'on le décrive, des essences d'arbres diverses un peu partout, des fleurs, on a des fleurs, des graminées à nos pieds, pas mal de terrasses et de balcons.
Voilà, c'est ça, on a effectivement une recherche sur la matérialité assez qualitative et durable. La végétation qui va faire tout le linéaire de ce nouveau quartier, on est sur un quartier aujourd'hui qui, à terme, il y a 2000 logements qui vont être construits sur un terrain qui était complètement à l'abandon et vide.
Dans ce nouveau paysage, avec des pistes cyclables et des nouveaux habitants, il y a aussi l'ombre du football et de l'installation possible du PSG. Le club a déjà inauguré, en fait, il y a 3 ans, un campus à Poissy, et il hésite à construire ici son nouveau stade pour remplacer le Parc des Princes. pour mesurer le changement et l'attractivité de la ville, on va pousser la porte de la plus vieille agence immobilière de Poissy. Bonjour, je suis Antoine Gignot, j'ai rendez-vous avec Monsieur Fernandez.
Alors, j'ai un monsieur qui a un micro tout poilu, je dirais que c'est France Inter.
Bonjour.
Jean-Michel Fernandez.
Et vous êtes ?
L'agence Saint-Louis Mobilier, le responsable de l'agence.
Qu'est-ce qui change ces dernières années dans le paysage post-industriel de la ville ?
Alors c'est vrai que c'était une ville qui était plutôt ouvrière, et puis on a vu venir progressivement des gens de la première couronne, arriver en deuxième couronne. Finalement, on est à 18 minutes de Saint-Lazare et à côté de Paris. Et au final, on a cette clientèle plutôt jeune, actif, finalement, qui s'installe. Le prix au mètre carré est souvent un vrai sujet. On peut se retrouver à 1500 le mètre carré, jusqu'à 9000 euros le mètre carré. Donc c'est complètement fou. Le premier critère, c'est essentiellement les transports en commun. Donc le centre-ville, il y a la gare, RER A, bientôt le E, et en plus le tramway qui arrive.
C'est-à-dire plus on se rapproche du centre et des gares, plus on est sur de l'immobilier cher.
Cher.
Oui, et c'est là où c'est intéressant, c'est que le site de Stellantis est quand même très proche de la gare.
Exactement, on est vraiment collé à la gare, oui, tout à fait.
Donc un vrai potentiel immobilier.
Énorme, énorme. La forêt fait le tour de la ville, et en fait, de l'autre côté, vous avez la Seine. Donc on est vraiment entre Seine et forêt, c'est pour ça qu'il y en a encore sous le pied.
L'idée d'avoir le PSG ici, ça se chiffre? Vous avez une idée de combien ça peut se chiffrer?
Aujourd'hui, on a déjà une expérience qui est le campus du PSG, qui est déjà implanté sur Poissy depuis 2 ans. En réalité, on va gagner en notoriété. Moi, j'ai déjà eu des retombées de clients. Par exemple, j'ai eu une kiné qui était de Bretagne, qui a été embauchée par le PSG, et donc elle a acheté à Poissy. Donc indirectement, j'ai cru entendre qu'il y avait une retombée financière pour ce campus, hein, de 400 000 euros, si je ne me trompe pas, par an. Donc,
c'est un immense territoire, quoi qu'il arrive. À l'échelle de la ville, ça représente quoi en superficie?
Quand on voit la zone industrielle, d'ailleurs, elle est sur 3 villes. Hein, elle touche à Cher, elle touche Carrière, elle est à Poissy. Donc c'est vrai que c'est très, très grand. C'est peut-être une opportunité, effectivement, hein, pour la ville, de se dire quelle est l'entreprise qui va pouvoir acheter ces terrains tout en dépolluant les sols. On parle de Qatari, ça aurait pu être autre chose. Donc oui, j'espère qu'on en fera quelque chose de positif pour le futur. Ouais.
Quel regard vous avez, vous, sur cette ville qui change? Il reste quoi du passé industriel aujourd'hui?
Alors effectivement, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'usines. Il y a beaucoup de nostalgie quand je vois nos anciens. Hein. Moi, j'ai ma petite voisine qui est là depuis longtemps, donc elle a vu ce petit village de 16 000 habitants arrivé aujourd'hui à 40 000 habitants. Après, il y en a qui diraient, mais est-ce qu'une usine à Paris, ou en tout cas très proche, est-ce qu'il y a un sens aujourd'hui? Là, on voit des nouveaux habitants qui viennent plus facilement, finalement, à Poissy. Donc, je vois bien ce regard qui a changé, positif.
Mille merci.
Eh ben, je vous en prie.
À une prochaine fois.
Au revoir.
Alexandra Porriclé, directrice des grands projets urbains et Action Cœur de Ville à la ville de Poissy.
On a tourné une page dans l'histoire de la ville?
Alors, on est en train de tourner une page parce que c'est une nouvelle vitrine aussi, avec des objectifs de développement durable et transition écologique assez poussés. Donc c'est une vitrine pour nous, c'est une vitrine aussi de promotion de ce que souhaite la ville en termes de développement et d'urbanisme. Et puis c'est un formidable enjeu de reconquête et de refaire la ville sur la ville. C'est un terrain de jeu entre guillemets, vraiment entre guillemets, hyper intéressant pour requalifier la ville et donner peut-être ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent à Poissy, avec des immeubles qui sont conçus un peu différemment, de manière bioclimatique, un plan global aussi, un parc d'un hectare 7 qui va se créer, alors à long terme. C'est une nouvelle façon aussi de voir l'urbanisme et l'aménagement dans le quartier et sur le territoire de Poissy tout simplement. Effectivement, on tourne une page industrielle parce qu'on avait des friches industrielles, donc des entreprises qui sont parties, qui ont fermé. Mais on est aussi sur du logement à proximité de Stellantis, à proximité d'autres entreprises, donc qui aussi proposaient du logement à côté des sites industriels et de là où on travaille. Donc c'est cette complémentarité-là qu'il faut retrouver. Comment on arrive à équilibrer notre territoire en gardant à la fois et l'emploi et en construisant du logement, et du logement aussi abordable.
En termes de logements sociaux, comment ça se répartit et où ça se répartit ?
Alors, la ZAC au total sur les 2000, un peu plus de 2000 logements, il y a 22% de logements sociaux hein, sur la totalité. Et les prochaines offres qui sont proposées dans le cadre des prochains lots en cours de commercialisation, c'est du logement BRS, du bail réel solidaire. Donc il y a 25 logements au bail réel solidaire qui permet aux habitants d'acquérir leur logement sous ce type de format-là, bail BRS. C'est des préoccupations de développement de territoire et de maintien du territoire, de son outil industriel, du logement et des habitants aussi. Il y a cet équilibre à trouver.
Poissy, après les usines, un reportage d'Antoine Gignot pour Interception. À la production cette semaine, Hélène Chevalier et Xavier Yvon. La réalisation est signée Lucie Lemarchand. Martine Messonnier est chargée de programme. C'est Alex Olari-Ouaju au Tinois. Et Sybille Clamins qui assurait le mixage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interception au bout du monde et au coin de la rue.